Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des traditions créé par Claude Giraud et dirigé successivement par Alain Laurence, assisté de Guylaine Lacoste, et par Christian Brosio, diffusé en direct jeudi 19 février 2015 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé vendredi 20 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers amis de Radio Courtoisie, bonsoir. Au micro, la belle Alain Laurence, dans le cadre de ce libre journal des traditions, assisté de façon efficace par Benoît et par Guylaine, comme à chaque émission. Je les remercie de leur concours, de leur collaboration précieuse. Nous avons la joie ce soir de recevoir Winfried Wurmeling, que j'appelle le plus français des Allemands, parce qu'il a épousé une Française et il se bat pour nos racines, notre culture, comme peut-être certains Français n'osent plus le faire. Nous lui demanderons ce qu'il prévoit pour cette année, alors que nous sommes entrés en carême depuis mercredi des cendres. Ce carême, bien sûr, va se terminer par la semaine sainte, par le chemin de croix, par la méditation de la passion. Eh bien, nous demanderons à Winfried Wurmeling, comme chaque année, ce qu'il a prévu, s'il peut encore réaliser ce qu'il a l'habitude de faire chaque année. Ensuite, je recevrai vers 18h30 l'abbé François-Marie Chotard, qui dirige l'Institut universitaire Saint-Pédis, qui nous dira ce que l'on peut attendre des études littéraires qui sont données justement dans cet institut Saint-Pédis au niveau des débouchés. Qu'est-ce que les personnes qui font des études littéraires, que ce soit en histoire, en philosophie, donc littéraire au sens large, mais aussi donc lettres classiques, qu'est-ce qu'elles peuvent espérer à la sortie de leur formation? Et puis je recevrai vers un peu avant 19h, Hubert Leroux, pour un ouvrage qui est paru là, il y a quelques jours, donc nous l'avons vraiment en primeur. C'est un ouvrage consacré à ces soldats français qui se battent depuis 1983 sur tous les théâtres d'opération où l'armée les envoie. Et ça n'est pas en réalité un livre sur... Il faut dire que c'est un livre de ces soldats. Hubert Leroux a fait parler, a donné la parole à ces hommes qui se sont battus au Liban, au Mali et partout où il y a eu cette présence française, donc entre 83 et 2015. Donc nous l'entendrons un petit peu avant 19h. Winfried Wurmeling, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-vous, comment va votre, j'allais dire vos associations, parce que vous avez plusieurs associations et celle dont nous allons parler en premier, c'est l'UNEC.
Oui, c'est Costa qui s'occupe particulièrement des reliques et des pèlerinages. Mais c'est toujours à l'intérieur de l'association déclarée UNEC.
Alors, dites-nous un peu ce que signifie UNEC.
UNEC, c'est Union des Nations de l'Europe chrétienne. C'est-à-dire, nous voulons bâtir une Europe chrétienne au lieu de l'Europe que nous voyons aujourd'hui. Et ça se compose par les vieilles nations de l'Europe, la France, l'Allemagne. Et comme je viens de l'Allemagne, je peux un petit peu contribuer à faire ce lien, mais dans un sens chrétien.
Et on peut le dire, c'est une tradition familiale, parce que votre père déjà se battait pour l'Europe chrétienne.
C'est vrai, c'était vraiment l'Europe chrétienne avec Dr Adenauer à l'époque, le chancelier après la guerre, qui était envisagé lors de la naissance de ce conglomérat qu'on appelle aujourd'hui Union européenne. Et c'était basé sur des principes chrétiens, très nettement. Et on avait là une quinzaine d'années de montée continue de l'Allemagne, ce qu'on appelle le miracle économique allemand aujourd'hui. Mais il y avait des raisons pour cela.
Et votre père était ministre d'Adenauer,
oui,
c'est
oui,
ça ?
Oui, de la famille. C'était le premier ministre de la famille qui a existé en Europe. C'était une invention du Dr Adenauer de renforcer la famille dans la population.
C'est-à-dire la famille, ouais. Donc la vie, et rien contre la vie, voilà. C'est cela. Mais voilà. Ça, nous en parlerons, parce que ça fait partie d'une de vos associations aussi. Mais pour l'instant, alors dites-nous, Costa, ça appartient à cette association LUNEC. Qu'est-ce que ça signifie exactement, Costa?
Oh, c'est Comité Sainte-Tunique d'Argenteuil, STA, Costa. Ou alors Comité d'études œcuméniques de la Tunique d'Argenteuil, comme on veut. Ça dépend un peu, le papier en tête, à qui l'on envoie.
Et alors, justement, la tunique d'Argenteuil, vous la vénérez chaque année en procession. Vous vous rendez à Argenteuil au moment de la Passion.
Oui, à l'entrée de la Passion. C'est-à-dire, notre petit groupe de recherche, Costa, s'est aperçu que quand on fait des études sur les reliques, eh bien, quand elles sont positives et quand elles apportent des succès, il faut savoir aller sur les genoux aussi. C'est ce que je reproche un peu aux scientifiques qui trouvent des merveilles dans le domaine des reliques sans, comme les mages, qui eux, par leur science, ont été amenés jusqu'à Bethléem, eux, ils savaient encore plier leurs genoux.
Et adorer l'enfant Jésus.
Voilà. Donc nous, on a essayé de, en même temps qu'on fait des recherches, des colloques, des livres sur l'Argenteuil, mais aussi après toutes les reliques du Christ, c'est devenu une véritable spécialité, nous voulons aussi réinstaurer les pèlerinages, la vénération de ces reliques. Et c'est comme ça que nous avons commencé, maintenant il y a 10 ans, ça fait la 10e fois, recommencer la procession et le pèlerinage de la Sainte Tunique d'Argenteuil.
Alors comment êtes-vous reçu? Parce qu'aujourd'hui on a peu le culte des reliques. Comment est-ce que vous êtes reçu par le curé d'Argenteuil? Est-ce qu'on vous ouvre les portes? Est-ce que vous pouvez vraiment prier? En 10 ans, vous avez peut-être créé des liens d'amitié?
Oui, ça s'améliore d'année en année. Disons, aujourd'hui, nous avons vraiment des bonnes relations avec la basilique d'Argenteuil. Nous entrons facilement, nous faisons les dates en bonne entente. Mais il est vrai que de leur côté, il n'y a pas encore de procession. On dirait ils osent pas encore. Pourtant, ils sont admiratifs de ce qu'on fait. C'est quand même 300-400 personnes qui se balade là à travers la ville d'Argenteuil avec 60% d'immigrés en chantant nos chants de la Sainte Croix et du Christ. Et les gens se retournent, disent qu'est-ce que c'est. Et cette année, la première fois, on va même tracter des tracts un peu appropriés pour la procession, pour le donner
aux badauds qui voient
oui, badauds et d'autres religions, hein, notamment l'islam aussi. Hein, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe et qui leur explique. Donc on a développé là une petite manière de le faire en tractant le long du pèlerinage. Mais c'est toujours sans aucun incident. C'est magnifique, cette procession à travers cet Argenteuil moderne qui a oublié la Sainte Tunique, elle est chaque fois un peu bouleversante parce qu'elle est tellement simple, c'est pas glorieux, c'est la Sainte Tunique de la Passion. Hein. Et même notre procession, elle est très simple, c'est bouleversant et on se rappelle des siècles et des siècles où cette procession a eu lieu à partir des bords de la Seine jusqu'à la basilique. À l'époque, c'était l'abbaye bénédictine chrétiennes qui entouraient la Sainte Tunique. Et nous, on n'est que des suiveurs sur les traces de cette magnifique tradition.
Qui étaient les illustres pèlerins dans l'histoire? Quels sont les pèlerins qui sont venus s'incliner devant la Sainte Tunique?
Ah ben, presque tous les rois sont venus, même le roi Saint-Louis. Il est venu deux fois.
Hein,
et une fois, il a même, c'est-à-dire la première fois, c'était après l'échec de sa croisade, il a déposé la couronne devant la Sainte Tunique en disant « Seigneur, je ne suis pas digne ».
Il a déposé sa couronne de roi.
Oui. Et il l'a repris après une heure de prière en prévoyant une autre croisade. Et il est mort comme le Christ sur les plages, vous savez bien, en Égypte, avec les mains étendues sur la plage en deuxième Christ. C'est ça, cette relique, elle transforme les gens. On s'approche là d'une relique du Seigneur. Et on sait aujourd'hui qu'il y a du sang du Seigneur, des restes de sang de notre Seigneur. Elle est imbibée de sang selon les toutes dernières études. Je rappelle le livre du professeur Gérard Lucotte, « Sanguis Christi ». Sanguis Christi, le sang du Christ, il y a un an et demi ou deux ans, qui résume ses travaux qu'il a fait sur les particules de sang qu'on trouve dans la Sainte Tunique. Alors cette année, ça aura lieu le dimanche 15 mars. C'est le dimanche Laetare. Donc c'est j'aurais mieux aimé le premier dimanche de la Passion, mais ça s'arrange pas toujours avec le programme de la Basilique. Donc là, c'est 3 semaines avant Pâques, mais on approche quand même là le temps intense du carême. Quelle meilleure entrée que marcher sur les pas du Christ, s'approcher de ce qu'il nous a laissé pour notre vénération et parfois pour les miracles qui ne cessent pas, comme on peut le voir sur les ex-voto autour de la relique.
Alors le 15 mars, ceux de nos auditeurs qui voudraient se joindre à votre procession, vous leur donnez rendez-vous où? À Argenteuil?
Alors, ceux qui connaissent un peu, ils viennent déjà au bord de la Seine, sur le grand pont, pas de l'autoroute, mais le pont routier ancien qui relie Argenteuil et Gennevilliers. Et là, à gauche, il y a un grand parking, ça s'appelle le parking Villard, de la salle de fête Villard. Et nous nous rassemblons toujours là et commençons la procession là-bas à 15h.
Comment sur Radio Courtoisie, c'est sûrement pas un parking, ça va être plutôt un parc de stationnement, hein, c'est ça.
Oui, nous sommes d'accord. Parc de stationnement, oui, c'est ça, parc de stationnement, et jusqu'à 14h30, il est occupé parce qu'il y a le marché.
On peut se retrouver là.
Voilà.
Donc tout le monde, 14h, au parc de stationnement,
non,
tout près.
15h. Et à 15h30, alors pour les Parisiens qui s'y connaissent pas trop dans ces localités, ils peuvent tout simplement nous rejoindre par le train de Saint-Lazare. En 8 minutes, ils sont à la gare d'Argenteuil. Et en descendant, nous, on passe devant la gare.
Donc
à
15h30.
Voilà.
Vous les prenez comme ça.
Et ça se passe chaque année très bien comme ça. C'est plus facile comme rendez-vous. Donc 15h30, la gare d'Argenteuil, la procession passe et prend les Parisiens qui arrivent par le train.
Et alors là, vous traversez cette ville dont vous nous rappelez, Argenteuil. C'est 70% de population étrangère, d'origine étrangère. Vous n'êtes pas moqué, personne ne siffle, personne...
Ah non, non. Ah non, l'an dernier, j'avais même une dame qui m'a abordé. Elle dit « Je suis musulmane, mais qu'est-ce que vous chantez ? Qu'est-ce que c'est beau ?» Elle disait « Qu'est-ce que c'est beau ce que vous chantez ?»
Oui.
C'était impressionnant. Elle a dit « J'ai jamais entendu des chants pareils dans notre ville. » Vous voyez, ça, c'est une première approche. C'est positif, quand même.
Bien sûr.
Bon, alors c'est de là que l'abbé Berthe, qui organise cette année cette procession avec nous, de Conflans-Sainte-Honorine, de la Fraternité Saint-Pélice, il veut qu'on devienne un peu missionnaire aussi, autour de cette procession.
C'est très bien. Et donc, vous montrez vraiment votre fierté catholique. Vous n'avez pas honte de votre foi. Vous ne mettez pas votre étendard dans votre poche.
Puis on arrive à la basilique où le curé de la paroisse nous accueille sur le perron chaque année, très gentiment et courageusement, avec quelques mots. Et puis on rentre dans la basilique pour prier le chemin de croix. Chaque année, c'est très, très beau. Et ensuite, tout le monde se dirige un peu à genoux devant la Sainte Tunique. Et on a un certain nombre d'anciennes prières qu'on récite. Et puis c'est fini vers les 17h15. Donc c'est chaque année vraiment un moment intense de rentrer dans la passion du Christ. Il faut dire que la science nous conduit. Le plus que les scientifiques font des études aujourd'hui sur les reliques, le plus il s'avère que tout c'est hautement probable. Une probabilité 100% n'existe pas dans l'historique, dans l'histoire. Mais une probabilité haute, ça veut dire quelque chose. Il n'y a aucun contre-signe, d'une part, et les signes qu'il y a, ils vont tous dans le bon sens. Là, j'ai par exemple relevé qu'une des grandes reliques du sang du Christ, le suaire d'Oviedo, en Espagne. Il y a, par exemple, une toute nouvelle découverte avec de l'Université catholique de Murcie, à l'aide d'un microscope électronique à balayage, avec lequel on peut vraiment faire des merveilles de découvertes. Ils ont trouvé du grain de pollen d'Helichrysum, c'est-à-dire de l'immortel oriental, qui n'existe qu'en Afrique du Nord, Crète, côte asiatique de la Méditerranée. Et pas seulement ils ont trouvé ces pollens, à la limite on peut dire quelqu'un les a mis dessus, non, ils sont incrustés dans les globules blancs du suaire de Oviedo. Incrustés, c'est-à-dire ils se sont déposés au moment même de la solidification de ces restes de sang sur le suaire. Alors ça, c'est encore... Naturellement, on ne va pas dire c'est 100%, une preuve à 100%, mais c'est quand même un indice extrêmement fort qui conforte toutes ces longues traditions de l'Église. Moi, je pense...
On va demander à oui. Guylaine, qui vous écoute de façon passionné, de nous dire un petit peu où nous sommes et qui nous sommes.
Chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des traditions. L'abbé Alain Laurence reçoit Winfried Würmeling, secrétaire général de l'UNEC, l'Union des Nations de l'Europe Chrétienne, qui nous présente son pèlerinage à la Sainte Tunique d'Argenteuil, prévu le dimanche 15 mars 2015.
Alors justement, Winfried Würmeling, est-ce que vous pourriez nous donner une adresse pour ceux de nos auditeurs qui voudraient, par exemple, plus particulièrement vous interroger sur ces découvertes scientifiques dont vous nous parlez, ces congrès que vous organisez, ces travaux que vous coordonnez. Est-ce que vous pouvez nous donner une adresse? Est-ce que, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, il faut écrire ou téléphoner où?
Le plus facile, c'est quand même un email, un courriel à unec@wanadu.fr.
Très bien.
UNEC, UNEC, tout simplement. Ça, c'est le plus simple. Sinon, par lettre, pareil, UNEC, boîte postale, 70114 au 95 2010, Saint-Gratien.
Alors vous allez répéter peut-être juste cette dernière adresse, l'adresse postale.
L'adresse postale, alors UNEC, boîte postale 70114, 95210, Saint-Gratien, Gratien.
Alors, il faut que nous abordions un petit peu les autres activités, parce que vous avez prévu toujours pour cette... vénération des reliques du Christ, vous avez prévu, alors au printemps, un peu après même, un autre pèlerinage là.
Oui, ça sera en mai, du 12 au 19 mai, un pèlerinage qui nous amène à travers 5 pays. Comme toujours, chaque année, on fait un grand pèlerinage tel qu'on est allé jusqu'à Pétersbourg, jusqu'à Trondheim, jusqu'à Irlande. Bon, cette fois-ci, c'est un thème. Et le thème est « Pèlerinage sur les traces du Saint Sang du Christ ». Je crois que c'est la première fois qu'un tel pèlerinage se fait. Et là encore, on est un peu à la suite de la science, qui, eux, commencent à à établir la corrélation entre toutes ces reliques. Jusqu'à présent, chaque chercheur travaillait sur telle ou telle relique, sans trop savoir sur les autres, on ne peut pas s'occuper de tout. Mais maintenant, il y a des chercheurs qui regardent que les pollens dans toutes ces différentes reliques. À Oviedo, à Argenteuil, peut-être même un jour sur la Sainte Couronne d'Épines, à Notre-Dame de Paris, où très peu de scientifiques est fait jusqu'à présent, à Turin, naturellement, Saint-Suaire, etc. Et même maintenant, à Neuvy-Saint-Sépulcre, près de Châteauroux, où ça sera notre dernière station de ce pèlerinage en mai. Et ça, c'est une relique du Saint Sang du Christ qui est vénérée depuis pratiquement le XIIe siècle, milieu du XIIe siècle, avec une très bonne aspect historique de cette... Mais elle n'a jamais été étudiée scientifiquement. Ils n'ont jamais interrompu leur pèlerinage. Chaque lundi de Pâques, je peux vous annoncer, il y a là-bas, avec quelques 2000 personnes, un pèlerinage qui mobilise un peu toute la petite ville de Neuvy-Saint-Sépulcre vers l'église Rotonde qui existe là-bas. Ça, c'est des églises très rares en France, mais par exemple Aix-la-Chapelle, mais surtout l'église mère à Jérusalem, l'église Rotonde qui était un peu le symbole des églises avec les reliques du Christ, liées à la vie du Christ.
Alors redites-nous déjà les dates et si on veut s'inscrire, il faut le faire dès maintenant et on s'adresse à la même...
À la même adresse.
Oui.
Alors, le prix, alors ça c'est donc du 12 au 19, pratiquement une semaine. Le prix est 880 €, tout compris, en autobus, Bourmeau. Hein, on prend toujours notre cher Christian Bourmeau comme chauffeur, à travers toute l'Europe. Et si on veut une chambre individuelle, c'est plus 240 € en plus. Hein.
Et donc, on va vous redemander l'adresse de l'UNEC, à moins que Guylaine ne l'ait notée.
L'adresse, c'est UNEC, UNEC, oui. Boîte postale 70114, 92 510, Saint-Gratien. Est-ce oui. bien exact? Oui.
Alors, l'itinéraire, il est un cercle, si vous voulez.
Oui.
Il suit les endroits où sont aujourd'hui éparpillées les reliques du Christ, et notamment celles avec le Saint-Sang. On commence naturellement par Argenteuil. Hein? Même si on part devant Saint-Nicolas à Paris, la première station est une demi-heure plus loin, Argenteuil, avec la Sainte Tunique. Ensuite, nous allons le soir même à Bruges en Belgique, où se trouve la fameuse relique en poule du Saint-Sang, très ancien aussi, très vénéré depuis des siècles, où nous nous arrêtons un jour, où il y a chaque année un très grand pèlerinage de 80 000 personnes à la relique du Saint-Sang de Bruges. Ensuite, nous allons à Prüm, en Allemagne, dans cette ancienne abbaye bénédictine qui abrite depuis le père de Charlemagne la relique des sandales du Christ, où justement notre équipe, et notamment le professeur Lucotte, a fait des études très poussées, justement de nouveau avec ce microscope à balayage électronique sur les différentes couches de cette relique où nous avions heureusement librement accès, où il a trouvé des étonnantes révélations, jusque même des couches de sang. Et vous savez, dans le sang, pour aller plus loin, une analyse de sang, il faut pas seulement les globules blancs, qui sont normalement en surnombre, parce que là, il n'y a pas possibilité d'analyser l'ADN. L'ADN se trouve, pour les chercheurs, dans les globules rouges. Et ceux-là sont beaucoup plus rares. Actuellement, nous sommes, je crois, à 3 répertoriés, identifiés. Il en faut une dizaine pour faire une étude sérieuse. Donc là, on pourra peut-être faire des analyses plus poussées, comparatives, entre ce qui a été fait à la tunique d'Argenteuil et ses sandales de prume. Ensuite, on continue à Weingarten. C'est un très beau, un bel endroit en Allemagne, vers le lac de Constance, où il se trouve aussi qu'une ampoule du Saint-Sang du Christ est vénérée depuis que Mantua, en Italie, l'a coupée en 3 pour en donner une à l'empereur allemand, qui lui l'a laissée là-bas à travers un prince de Suabe qui est devenu d'ailleurs le prince de Flandre. C'est comme ça que Bruges et Weingarten, c'est la même relique, mais coupée en 2 il y a pratiquement 8 siècles maintenant. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire là-bas, qu'il y a la chevauchée des chevaliers en procession chaque année, 3000 chevaliers.
Aujourd'hui
allemands.
Encore.
Ah oui, et nous, on sera là le jour même où ça se produit. Et tous autour de la relique de l'ampoule du Saint-Sang du Christ de Weingarten. Donc, on va voir ça. J'ai reporté un peu le pèlerinage pour que ça cadre avec cette date-là. Ensuite, le voyage continue à l'ostension du Saint-Suaire.
Et parce enfin, qu'il va y avoir dire... une ostension cette année.
Ah oui, il faut dire le linceul de Turin. Saint-Suaire, c'est un peu réservé maintenant pour Oviedo. Alors, le linceul de Turin, il y aura une nouvelle ostension qui sera justement en cours tout le mois de mai. Et nous y passons un jour, comme nous l'avons déjà fait plusieurs reprises. C'est la relique de base de la chrétienté, avec cette sainte face où l'on peut que s'arrêter et c'est tous les reliques en une seule sur cette linceul de Turin. Et puis nous allons à Chambéry où le linceul a été quand même pendant quelques 115-120 années pour voir le château, la Sainte-Chapelle et puis nous terminons avec Neuvy, comme j'ai expliqué tout à l'heure, Neuvy-Saint-Sépulcre avec l'ampoule du Saint-Sang.
Très, très bien. Je vais vous demander, alors on passe à toute autre chose, mais je l'ai déjà annoncé, vous êtes le digne fils donc du ministre Wermelin du chancelier Adenauer, qui s'occupait de la famille, vous aussi vous vous occupez de la famille, et surtout de la famille en danger. Et je sais que vous venez de faire paraître un livre, si vous pouviez nous en dire un tout petit mot avant que je ne... cède la parole à l'invité suivant qui vient d'entrer dans le studio et que je salue au nom de tous les auditeurs du Courtoisie, Monsieur l'abbé Chautard.
Et je les salue également, vous de même,
Monsieur l'abbé. Merci beaucoup, l'abbé. Alors, dites-nous un petit peu ce que c'est ce livre et qu'est-ce que vous faites justement. Ça s'intitule « Livre de bord de SOS Maman ». Qui, oui. Ce SOS, qui le lance ?
Oui, alors SOS Maman, c'est une action aussi dans le cadre de l'UNEC où nous nous occupons de ces femmes et jeunes filles qui pensent devoir avorter leur bébé. Nous faisons ça depuis maintenant exactement 20 ans, depuis 1995. Et c'est un travail absolument passionnant entre la vie et la mort, entre Dieu et Satan, entre la nuit et le jour, la lumière et
les ténèbres.
Les ténèbres. Jusqu'à présent, nous avons pu sauver un par un 1054 bébés. Donc nous connaissons tous les noms, aussi bien des mamans que des bébés, parce que nous les suivons jusqu'à la naissance, plus 3 mois, souvent aussi financièrement. Il faut dire que c'est un travail passionnant parce qu'il nous révèle la grandeur vraiment de la femme. Même une jeune fille de 16 ans est capable de héroïsme dans ce contexte. Nous le voyons pratiquement toutes les semaines, là où tout espoir semble éteint, dès qu'on donne la main à ce moment précis, la vie rejaillit dans le cœur de la femme et elle devient une lionne pour défendre la vie après. Et elle se défend presque contre nous, en ne pas nous communiquant trop leur adresse définitive, etc. C'est après, ça devient un chapitre un peu sombre dans sa vie, et nous, les pompiers, on est oubliés un peu avec l'incendie. Il faut être d'accord avec ça. Hein.
Mais vous avez recueilli tout ce que vous avez fait là depuis 20 ans dans ce livre, comment est-ce que ça se passe?
Oui, alors le livre, c'est pratiquement tous les 2-3 mois, nous envoyons une lettre à nos donateurs qui ont droit de savoir ce qui se passe avec leurs dons, en leur relatant un peu ce qu'on a fait, les faits extraordinaires pendant les 2-3 mois, et ça s'appelle Journal de bord. Et puis, comme ça fait maintenant pratiquement 20 ans, de journal de bord, quelqu'un a dit pourquoi vous les éditez pas. Donc on a travaillé en équipe pour le raccourcir un peu, pour pas se répéter, mais c'est devenu un livre extrêmement riche, je crois là aussi assez unique, qui donne que les faits réels, comment ça se passe, et surtout qui peut devenir un guide pour les nouveaux groupes, comment faire. C'est pas évident. La charité chrétienne, c'est pas n'importe quoi. Ça s'organise et ça se réfléchit et ça se fait de façon structurée. Et là, on a une structure qui marche. On ne peut pas dire, on peut rien faire contre l'avortement. Là, on a un petit groupe d'une douzaine de personnes qui a sauvé 1000 bébés. Bah, si nous avons 1000 groupes comme ça, il n'y a plus d'avortement en France, n'importe les lois. Et c'est une façon peut-être de résorber l'avortement par le bas, par la charité chrétienne, en absorbant le malheur précis de l'avortement. Et puis les parlementaires, ils peuvent continuer à faire joujou avec leur loi d'avortement, ça ne nous intéresse pas. Voilà.
Alors, lui opposer la loi de la vie à la loi mauvaise des hommes pervers, c'est ça, vous voudriez. Mais alors, ce livre, on peut se le procurer toujours à la même adresse?
Oui, à la même adresse.
Et quel prix?
On l'édite nous-mêmes en auto-édition, c'est-à-dire on fait toutes les pages, vous connaissez ça, et puis on les envoie à une imprimerie qui est spécialisée, qui regarde même pas les pages, et dit c'est votre responsabilité. Donc il faut tout faire. Et au bout de ça, ils mettent la machine en route et vous avez 220 pages, un beau livre qui sort à la sortie de la machine.
Et on peut se procurer pour quelle somme?
Oui, on peut déjà faire des souscriptions. Nous avons une liste de souscriptions à 15 € pour l'instant, 230 pages. Il y a des photos de bébés aussi, mais c'est surtout les récits qui peuvent un peu inspirer d'autres groupes. C'est mon travail actuel. J'ai fait une 60aine de conférences déjà en France pour susciter des nouveaux groupes. C'est pas si facile que ça. Les gens, quelque part, ils ont peur. Ils disent, bon, j'ai déjà assez de problèmes. Là, j'en cherche.
la lecture du livre devrait, au contraire, les aider à les encourager. Quand ils verront le résultat, ils pourront se dire, là, il faut que je sorte je secoue
sortir un peu de soi, bien sûr. Il faut aller dans les rues. Nous, on n'attend pas à Internet des appels ou par téléphone. On n'a même pas de téléphone. On a un téléphone mobile qui circule que entre nos lycéennes, nos prostituées, enfin nos... Je dis nos, je veux dire nos petites mamans.
Les personnes vont vous occuper, effectivement.
Oui, les prostituées, par exemple, c'est tout un chapitre. On a sorti maintenant presque 130 prostituées du milieu. Évacuer, sauver leur bébé et réexpédier la plupart en Russie. Hein. Mais certains pays de l'Est aussi, Roumanie, Pologne même. Donc on les achemine et tout ça, ça coûte un peu d'argent. Donc il faut aussi s'organiser financièrement. Ça, c'est une part cachée de ce travail, mais qui occupe beaucoup de temps. Il faut écrire, il faut se faire savoir ce qu'on fait discrètement. On ne va pas dans les grands journaux. Mmh. Hein, pour que, pas seulement on trouve les bébés, mais aussi pour qu'on puisse financer les efforts.
Discrétion et efficacité. Ça, sous cet angle-là, vous êtes tout à fait allemand, c'est bien. Est-ce que je peux redemander l'adresse? D'autant plus qu'un auditeur vient de nous dire que Saint-Gratien, l'adresse où on peut vous écrire, n'est pas dans les Hauts-de-Seine, mais c'est le 95, n'est-ce pas? Ça n'est pas le 92, 95. Vous voulez donc donner l'adresse rectifiée, Hélène?
Alors, l'UNEC, UNEC, boîte postale 70-114. Ouais. 95 210 Saint Gratien.
Voilà.
Voilà, donc il suffit d'écrire à cette adresse, UNEC, boîte postale 70114, 95210, Saint Gratien.
Merci beaucoup.
Merci.
Auf Wiedersehen, Winfried.
Auf Wiedersehen.
Merci beaucoup pour tout ce que vous faites.
En anglais, je crois que c'est interdit ici, mais en allemand.
Ah non, 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 là, au contraire, on peut. Non, à vrai dire, je suis tellement content de voir tout ce que vous faites et c'est vraiment admirable, c'est vraiment remarquable ce que vous faites. Et je pense que votre père doit être heureux de voir que vous avez continuer ce travail,
Vous savez, à l'UNEC, on fait un peu tout ce qui est qui dépasse la France, qui déborde un peu de la France, qui est européen, si vous voulez, et ce qui est chrétien. Alors, c'est vaste, non ? Pour faire l'Europe chrétienne, il faut effectivement tous les aspects. Alors, moi, je dis à quelqu'un qui vient, « Ah, il faudrait », je dis, « Ben, tu le fais. » Et nous, on vous encadre. Et c'est comme ça, les 10 groupes de l'UNEC sont nés. Il y a toujours un qui avait l'idée. Et je dis les idées, ça suffit pas. Hein. Il faut les réaliser. À ce moment-là, c'est une idée valable.
Et c'était c'est comme ça. Le réalisme dont on va parler maintenant avec l'abbé Chautard. Un grand merci. Merci infiniment.